الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على شفيع الورى وسيد الأنام، سيدنا ومولانا وطبيبنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على من كان إذا تكلم كفى، وإذا صاح بصفا، وإذا عاهد وفا، وسميته حبيبا ومحبوبا ومصطفى، وكتبت اسمه الشريف على ساق العرش أحرفا، سيد العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم، زاده الله تشريفا وتعظيما ومهابة واحتراما، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le cadre de ce débat, de ce dialogue interculturel et interreligieux, nous abordons aujourd'hui avec vous un sujet très important, qui est le comportement islamique, le vrai comportement du musulman et sa relation avec les non-musulmans. Car en effet, il y a amalgame, il y a mélange, il y a incompréhension et il y a une image très obscure autour de l'islam, véhiculée et relayée par des ignorants qui ne connaissent pas l'islam, ou par des gens qu'ils font peut-être sciemment pour nuire à cette belle religion, à cette troisième religion monothéiste, porteuse de paix, de lumière, d'amour, à travers plus de 14 siècles, pour ceux qui l'ont bien compris, pour ceux qui l'ont bien suivi, pour ceux qui ont suivi le modèle mohammedien, le comportement mohammedien, dans toute sa noblesse, sa richesse et sa sublimité. Donc, en guise d'introduction, le comportement est structurant en islam. Ce n'est pas simplement un annexe en islam, laysa far'an wa innama asl min usuli hadha ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah de façon abondante. Sourate 33, verset 21. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Donc, hadith rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حقيقة عن جوهر رسالته. Prophète صلى الله عليه وسلم ici, il nous démontre, il nous explicite l'essence et le sens même de son message. J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Son message, le but pour lequel il a été envoyé principalement, c'est la noblesse de comportement. Ceci est confirmé par un autre hadith encore plus fort dans ce sens. Au prophète la semaine nous dit, la religion est le comportement. Ad-dinu al-mu'amala. Ad-dinu al-mu'amala. Et pour encore montrer la grande importance du comportement, du bel agir en islam, le prophète Lassema nous dit, rien n'est plus lourd dans la balance d'un croyant le jour de la résurrection d'un bon caractère. Rien n'est plus lourd dans la balance d'un croyant le jour de la résurrection d'un bon caractère. Dieu déteste l'homme grossier qui prononce des paroles obscènes. Hadith rapporté par Tirmidhi. En voyez-vous, il ne s'agit pas simplement de dire que je suis musulman, il ne s'agit pas simplement de se montrer, de montrer un caractère qui n'est pas le nôtre, والعياذ بالله, cette hypocrisie, il s'agit de montrer ça par notre bon comportement. Parce que ce qui est lourd, ce qui est le plus lourd dans la balance du croyant, c'est le bon comportement. Et Dieu déteste l'homme grossier qui prononce des paroles obscènes. À bon entendant. Et Abu Huraira radiallahu anhu a dit, on a demandé au messager d'Allah un jour, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui fait entrer le plus les gens au paradis. Il dit, la crainte de Dieu et la bonne moralité. On lui a demandé de ce qui faisait entrer le plus les gens en enfer. Il répondit, la bouche, c'est-à-dire les conséquences néfastes de la parole, médisance, calomnie, etc., et le sexe. Rapporté par At-Tirmidhi, hadithun hasanun sahih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha, mère des croyants, j'ai entendu le messager de Dieu dire, le croyant atteint par son bon caractère le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes les nuits à prier et à invoquer Dieu, rapporté par Abu Daoud. Idan annal mu'mina yanalu bi husni khuluqihi darajat as-sa'imi al-qa'im. درجه الصائم القائم انظروا الى هذا الشرف لان له صاحب الخلق الحسن صلوا وسلموا على سيدنا محمد صاحب الخلق الحسن الذي كان قرانا يمشي على الارض والذي قال الله فيه تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى a dit de son prophète l'islam le dernier messager tu es certes d'un sublime caractère. Et Aïcha dit que son caractère était le Coran. C'était un Coran qui marchait sur terre. Et le prophète sallam a dit aussi, où que tu sois, crains Dieu. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. Les gens ici, dans ce hadith, veut dire tout le monde, musulmans et non-musulmans, on va y venir. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et enfin, pour ne citer que ces hadiths, parce qu'il y en a beaucoup, hein, on peut parler jusqu'à demain matin sur les hadiths qui encouragent, qui incitent, qui ordonnent le bon comportement. Abu Umam al-Bahili a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je me porte garant qu'il aura une demeure dans l'enceinte du paradis, quiconque abandonne une discussion âpre, même si elle est de son droit, c'est-à-dire même s'il a raison, une demeure au milieu du paradis à quiconque laisse le mensonge, même en plaisantant, et une demeure au sommet du paradis à quiconque jouit d'un bon caractère. Et une demeure au sommet du paradis à quiconque jouit d'un bon caractère. Rapporté par Abu Daoud, hadithun sahih. Donc on voit de façon claire, de façon pertinente, hein, sans aller plus loin, que le bon caractère, que le croyant, le vrai croyant, c'est celui qui jouit d'un bon caractère. Que le bon caractère, le bel agir, le bon comportement, est un élément structurant dans notre religion islamique. Prenons par exemple les actes cultuels pratiqués par le musulman. Ces actes cultuels doivent l'amener à avoir le plus bon comportement et les valeurs les plus nobles. Sinon, ça sert à quoi de prier 5 fois par jour, de jeûner, de faire le pèlerinage, si c'est pour l'ostentation et pour se montrer. On va voir qu'il y a un hadith qui fait vibrer les pierres, hein, c'est un hadith très important. Qui nous met en garde contre l'ostentation. Le savant, celui qui a l'argent, celui qui a fait le jihad, et qui en fait ça seulement par ostentation, pour plaire aux gens. Et bien ceux-là, ils ont un châtiment douloureux, à cause de l'ostentation, qui est la petite association. Donc l'école de la prière, prenons l'école de la prière. Moi je l'appelle école parce que il y a tout un symbolisme, il y a toute une spiritualité. La salat, c'est pas simplement la prière canonique. La salat, ce n'est pas simplement une gymnastique. Ce n'est pas une gymnastique. C'est une école. Elle doit lui apprendre l'humilité, doit apprendre aux fidèles l'humilité, la sincérité, la bonne intention, le bon jugement, la sagesse. C'est ça la prière. C'est une école qui doit nous apprendre ces valeurs-là, entre autres. Et sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire, la prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ankabout, la prière éloigne des turpitudes et des péchés. Fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire, son rôle, c'est ça. Par quoi tu vas juger que ta prière a été acceptée? Par le fait que ton comportement s'est amélioré. Ceci est confirmé par le hadith du prophète Slama, où il dit, celui qui, en faisant sa prière, ne s'interdit pas, c'est-à-dire cette prière ne l'empêche pas de faire les péchés et les turpitudes, eh bien cette prière ne fait que l'éloigner de Dieu. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ما زادته من الله إلا بعدا والعياذ بالله. Donc la prière, pour qu'elle nous rapproche de Dieu, pour qu'elle donne ce fruit escompté, ce beau fruit, pour qu'elle agisse sur notre extérieur et sur notre comportement, eh bien, elle a comme critère le fait qu'on s'éloigne avec cette prière et grâce à cette prière de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mauvais comportement. Et donc le critère de son acceptation, c'est qu'elle nous a effectivement servi à s'éloigner de tous ces péchés et à devenir un serviteur utile, un serviteur humble, un serviteur sage, un serviteur sincère, un serviteur qui a un bon caractère. L'école du jeûne, Siyam, nous apprend la patience, la compassion, l'amour du prochain, la miséricorde, l'indulgence. Jeûner le mois de Ramadan, c'est pas une festivité. C'est pas de l'événementiel, c'est une école à part entière. Le prophète la semaine nous dit, combien de jeûneurs il ne récolte de son jeûne que faim et soif. L'école de la zakat, de l'aumône purificatrice légale, elle nous apprend le partage, elle nous apprend la générosité, elle nous apprend l'entraide, elle nous apprend la solidarité, elle nous apprend l'altruisme. C'est une purification pour nous. C'est un détachement du matériel. Elle assure l'équilibre social entre riches et pauvres. C'est de l'argent que donne le riche pour le pauvre. C'est ça l'école de la zakat. Ce n'est pas de l'ostentation. Ce n'est pas un acte ou une gymnastique sans esprit. L'école du Hajj, qui est le cinquième fondement de l'islam. Le Hajj, le pèlerinage à la maison sacrée, elle doit nous apprendre l'endurance, la solidarité, la pureté de l'intention, l'indulgence, le respect, voir tout ce monde, tous ces cultures, ces ethnies, ces races différentes qui se regroupent autour d'un édifice pour une seule chose, prier Allah subhanahu wa ta'ala d'une seule voix, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, jeunes et vieux, pour prier Allah subhanahu wa ta'ala d'une seule voix. N'est-ce pas là un symbole unique dans le monde? Un symbole d'amour, un symbole de rapprochement entre les peuples, un symbole de respect, un symbole de fraternité unique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire au niveau du culte du musulman et de ce que, du symbolisme de ce culte et du résultat escompté de ce culte. Donc on voit que le culte n'est pas des formes mortes, mais c'est simplement. Ce n'est pas des formes mortes et ce n'est pas une gymnastique sans esprit, c'est un sens, c'est une éducation continue. Évidemment, la pureté de l'intention, l'ikhlas pour Allah, doit venir en amont de tout acte pour lui donner la vie et le sens. Et le prophète Slama, comme on a dit, il nous a appris que grâce à ses hadiths et grâce à sa pratique et à la pratique de ses compagnons, que le comportement est structurant dans la vie du musulman. Il a donné ça par l'exemple. Par exemple, au moment où il a été chassé et il a souffert à cause des gens de Taïf, ils lui ont jeté des pierres, où il avait les pieds en sang. était dans un état lamentable, un état de souffrance. Et au lieu de se mettre en colère, bien, il a pardonné. Il a pardonné. Le prophète Slama, il s'est mis dans un endroit pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander si c'était lui qui était fautif et si c'était lui qui n'arrivait pas à faire passer le message comme il le faut. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie l'ange des montagnes. L'ange des montagnes lui dit: moi je suis à ton service, Mohammed. Ordonne-moi. Si tu m'ordonnes, Dieu m'envoie pour ton service et me dit: ordonne-moi, si tu veux, je les engloutis sous ces deux montagnes. Et le prophète sallam lui dit: non, non. Puisse Allah faire sortir de leur progéniture des gens qui adorent Allah l'unique sans rien lui associer. Vous voyez, le prophète sallam est dans un état, et malgré cela, il pardonne à ceux qui lui ont fait du mal, à ceux qui l'ont démenti, à ceux qui lui ont jeté des pierres et qui l'ont insulté, alors qu'il avait l'occasion précieuse de se venger. Mais il ne se vengeait jamais pour lui-même. Il a préféré pardonner et prier Allah pour les gens qui lui ont fait du mal. Pour les gens qui lui ont fait du mal. Donc regardez cet exemple unique. Et combien on est loin aujourd'hui. Beaucoup de musulmans sont loin de cet exemple de pardon. Et Jibril a dit en commentaire à cet acte de pardon magnifique. Il a dit: Sadaqa man sammaka ar-raufur rahim. Sadaqa man sammaka ar-raufur rahim. Dieu a eu raison de t'appeler, dans le Coran, le miséricordieux plein de compassion. Et dans d'autres circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, c'était son fidèle serviteur, il a dit: moi j'ai servi le prophète 10 ans, jamais il m'a dit, fais ça, quand j'ai fait cela, pourquoi tu as fait cela, ou quand je n'ai pas fait cela, pourquoi tu n'as pas fait cela, et jamais il ne m'a dit, ouf. Voyez-vous, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais levé la main sur quelqu'un, ni homme, ni femme, ni jeune garçon. Jamais. Il était toujours dans le pardon, dans la sagesse, dans la miséricorde. On ne t'a envoyé comme miséricorde pour les univers. À part évidemment dans les guerres défensives qu'il a livrées pour sauvegarder l'islam. Et ce sont, comme on a vu les dernières fois, le jihad, il a eu des moments où il n'était pas encore autorisé et des moments où effectivement Allah a autorisé aux croyants de se défendre pour sauver l'islam. Voilà donc ce qu'on peut dire en guise d'introduction à ce sujet à la fois épineux, à la fois structurant, que beaucoup de gens ignorent. C'est-à-dire on peut passer des nuits et des jours à parler de la pratique mohammedienne, De la sira, de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il se comportait avec les non-musulmans, avec les ennemis de l'islam, avec ceux qui voulaient du mal, avec ceux qui ont tué ses meilleurs compagnons, ceux qui ont mutilé ses meilleurs compagnons, comment il a pardonné, comment il a réformé, comment il a répondu par le bien au mal, jusqu'à ce que son bien se répande et l'emporte sur le mal. Donc c'est riche d'enseignements, c'est riche de sagesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné aussi l'exemple de sa relation avec les gens du livre. On va aussi le voir dans la suite. Nous citons donc dans un premier temps quelques versets coraniques au sujet de cette fraternité humaine, au-delà des religions, au-delà des races. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans le verset 13 de la sourate 49: ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin que vous vous connaissiez entre vous, le plus noble d'entre vous pour Dieu et le plus pieux. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimul khabir. Et aussi le verset 32 de la sourate 5: que quiconque tuerait une personne, à moins qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis rien d'autre, alors c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. à quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les gens ensemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans la sourate 5, dans le verset 2 de la sourate 5, aidez-vous les uns les autres à l'accomplissement du bien et de la piété, et ne vous entraînez pas à commettre le péché et l'agression. Et il a dit aussi, si l'un des associateurs des mouchriquins te demande la protection du voisin, offre-la lui le temps qu'il faut pour qu'il entende le verbe de Dieu, puis fais-le parvenir là où il se trouve en sécurité. Donc verset 6, sourate 9. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ثم أبلغه ما منه وفي رواية حفص ثم أبلغه ما منه. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans les versets 8 et 9 de la sourate 60, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, de prendre soin d'eux, bien se comporter avec eux, car Allah aime les équitables. Car Allah aime les équitables. La yanhaakum Allahu 'ani alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Wala tujadilu ahl al-kitab illa billati hi ahsan. Donc, comme on a vu, nombreux sont les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent de faire du mal ou de porter atteinte à la vie que Dieu a rendue sacrée. Donc, on a vu qu'il y a des versets du Coran, qu'il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incite sur le bon comportement, sur l'entente entre les peuples, sur la notion de fraternité humaine, au-delà des races, au-delà des religions, et qui incite aussi sur la sacralité de la vie, que la vie est précieuse et chère, et que c'est le dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, interdiction de se faire du mal, de faire du mal à autrui, de porter atteinte à la vie que Dieu a rendue sacrée, donc suicide, meurtre, tout cela est interdit, clairement dans les textes du Coran et de la Sunna, car la vie est le dépôt de Dieu, elle amène en chacun de nous. C'est-à-dire Dieu nous a confié cet esprit, cette âme, ce corps, pendant un moment donné, qui est la vie sur cette terre, cette vie éphémère. Et puis ensuite, Dieu va nous prendre chez lui, au jour de la résurrection, et on sera questionné, interrogé, sur cette responsabilité, sur ce dépôt que Dieu nous a confié pendant cette période de vie éphémère, et qu'est-ce qu'on a fait avec notre corps, avec notre vie, avec notre esprit? Est-ce qu'on a utilisé nos compétences et les bienfaits d'Allah sur nous dans l'obéissance et dans le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui est utile pour nous et pour autrui? Ou est-ce qu'au contraire, on l'a utilisé dans la destruction, dans l'agression, dans le péché, dans la violence? Et chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait des dépôts sacrés que Dieu lui a confiés dans cette vie éphémère, momentanée, terrestre. Allah dans le Coran a même promis l'enfer à celui qui se tue ou à celui qui tue autrui sans raison légale, comme l'autodéfense par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, quiconque tue intentionnellement, volontairement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Donc, sourate 4, verset 93. Et même dans les guerres, l'islam a établi dès son avènement une charte qui protège les civils, les enfants, les femmes, les vieillards, les hommes de religion et leur lieu de culte, ainsi que les arbres fruitiers ou vivants et les animaux. Et même les prisonniers de guerre, il y a obligation en islam de bon comportement avec eux. Et c'est un sujet vaste qu'on peut pour cela consacrer plusieurs conférences sur la charte de guerre en islam et la charte de respect de l'autre en islam aussi. Le comportement envers les gens du livre est un devoir. Comme on a vu, Allah dit dans le Coran, ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. Verset 46 de la sourate 29. Durant sa vie à la fois comme chef religieux et comme homme d'État, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dernier messager, faisait preuve d'une grande sensibilité et de respect dans ses relations avec les peuples du livre, les juifs et les chrétiens. Dans l'esprit de la révélation divine, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdisait de faire du mal aux non-musulmans et demandait aux musulmans de bien les traiter. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. Celui qui fait du mal à un juif ou à un chrétien trouvera en moi son adversaire au jour du jugement. La première chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit après s'être établi à Médine, où il y a eu la première société musulmane, le premier État musulman, Marhalatul Dawla, où il avait été invité comme chef. Et donc la première chose qu'il a fait, c'est de conclure un traité entre les musulmans et les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. D'après ce traité, les musulmans garantissaient à ceux-ci la liberté de croyance et leur accordaient les mêmes droits et obligations que ceux dont ils jouissaient eux-mêmes. Donc il n'a pas seulement fraternisé entre l'Ansar et le Muhajirin, il a aussi établi une charte qui garantit la liberté de religion, la liberté de culte, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid-din, nulle contrainte dans la religion, et conformément aux paroles du Très-Haut, dans le Coran aussi, afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Est-ce que c'est toi qui vas contraindre les gens pour croire? Donc, il appartient à Dieu de guider qui il veut. Et donc, à partir de là, dans ce nouvel État musulman qui s'est établi à Médine, eh bien, une charte fut établie entre les musulmans et les chrétiens qui garantit la liberté, et les chrétiens et les juifs qui garantissaient la liberté de religion, la liberté de culte à tout le monde. Et puis toujours dans la continuité de ce dialogue interreligieux constructif, fructueux, qui révèle une grandeur d'esprit, qui révèle une sagesse rare, inégalée. Et aussi, je n'appellerais pas ça une tolérance, mais plus qu'une tolérance, un amour, un respect. Quand une délégation de chrétiens en provenance de Najran, qui est une ville du sud-ouest de l'Arabie, est venue à Médine voir le prophète l'Islama, eh bien, le prophète l'Islama, Sidi Mohammed, les a reçus dans sa mosquée. Imaginez-vous, dans sa mosquée sacrée. Donc, le prophète l'Islama reçoit les chrétiens de Najran, une ville du sud-ouest de l'Arabie, dans sa propre mosquée, sa mosquée sacrée. Et les invita à dire leurs prières à l'intérieur de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans disaient leurs prières d'un côté et les chrétiens de l'autre. Au cours de cette visite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam discuta aimablement avec eux sur de nombreux sujets. Et vous pouvez consulter comme référence pour ce que je viens de dire la Sira d'Ibn Hisham ou Nour al-Yaqin fi Sirati Sayyidi al-Mursalin. Page 309, hein, donc c'est le cheikh Mohamed Al-Akhtari. C'est plein de sagesse, c'est extraordinaire. Comment effectivement ce dialogue constructif fut établi dès l'avènement de l'islam entre musulmans et gens du livre, pour le bien de l'humanité, pour un échange plus sage. Et il n'y a pas de choc de civilisation. Le choc de civilisation, c'est une façon de répandre la haine. Ça n'existe pas. C'est des gens qui veulent que les choses ne marchent pas. Alors que la religion est là pour que les choses marchent. La religion, c'est pas, elle n'est pas là pour faire obstacle. Elle est là justement pour nous donner à réfléchir. Elle appelle notre esprit, elle appelle notre raison. Elle appelle à la fraternité qui existe entre nous. Elle appelle aux valeurs communes qui existent entre nous, les valeurs communes entre les trois religions, le tronc commun entre les trois religions, les valeurs universelles, ce qu'on appelle les valeurs universelles, qui sont le patrimoine commun de l'humanité, un patrimoine riche, un patrimoine précieux, à partir duquel on doit baser nos efforts de dialogue interreligieux pour la paix dans le monde. Ceci, donc, ce que je viens de dire, prouve la considération du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du livre et le souci d'établir une solidarité humaine entre les croyants de toutes les religions. Toujours dans cette continuité de ce que je suis en train de développer sur la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens du livre, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au sujet du Négus, al-Najashi, qui était le roi de l'Abyssinie, de l'Éthiopie, de l'actuelle Éthiopie, qui était un roi chrétien, juste. Oui, il y a parmi les gens du livre qui certes croient en Dieu. Là, je vous cite les paroles de Dieu de la Sourate 3, du verset 199 du Coran. Donc, oui, il y a parmi les gens du livre qui certes croient en Dieu et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux, humbles qu'ils sont devant Dieu et ne vendant point les signes de Dieu à vil prix. Voilà ceux dont le salaire est auprès de leur Seigneur. Le prophète sallam a accompli la prière de la mort en hommage sur l'absent, donc en hommage à ce roi juste. Salatul janazati ala al-ghaib. Et aussi on cite utilement ici l'échange entre ce roi issu du christianisme et les compagnons du prophète sallam. C'était la première émigration des compagnons du prophète sallam vers ce roi juste. Et effectivement, ses compagnons ont fait preuve de bon comportement. Ils étaient des vrais ambassadeurs de l'islam dans ce pays-là. Et ils ont laissé un parfum agréable, des traces sublimes de bon comportement envers les gens de l'Éthiopie, de l'Abyssinie. Et aussi, on peut citer l'échange entre le roi des Coptes, les Coptes chrétiens d'Égypte, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans tout cela, le comportement prophétique était le modèle de pardon, de la miséricorde, de la magnanimité, de l'échange respectueux et de la fraternité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'établir entre l'humanité pour le bien de l'humanité, pour le bien commun de l'humanité, pour que la paix règne dans le monde. Parce qu'on est là, dans cette vie, pour construire, pour échanger, dialoguer de la façon la plus aimable, de la façon la plus sage, pour arriver à des résultats. Parce qu'un dialogue de sourds, ça ne sert à rien. La violence, ça n'engendre que la violence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah yu'ti bil rifqi ma la yu'ti bil unf ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah donne avec l'indulgence, avec la douceur, ce qu'il ne donne pas avec la violence ». Quand vous êtes violent dans vos propos, quand vous estimez que vous détenez la vérité absolue, eh bien le message ne peut pas passer. Parce que l'autre aussi s'entête, et vous êtes deux entêtés, et le message ne passe pas. Alors que si le dialogue est structurant et se base sur le respect mutuel, sur la sagesse, sur la bonne exhortation, sur le bon conseil, sur un esprit d'échange fructueux, eh bien, le message peut passer. On peut échanger des preuves dans la douceur, en respectant l'autre, en considérant que je ne possède pas la vérité absolue, et bien là, le message passera. Et c'est comme ça qu'on peut passer le message, et c'est comme ça qu'on peut être bon ambassadeur de l'islam et de notre religion, où que nous soyons. Par le bon dialogue, par la vraie science, par la sagesse et la bonne exhortation. Hikma wal maw'idha al-hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Et la discussion aimable, douce. En partant du tronc commun, de ce qui nous unit, en évitant les points de divergence. Donc il faut commencer par les points de convergence, par le tronc commun. Et puis, évidemment, en ayant le bon comportement, en donnant l'exemple par soi-même. Et puis, dans la continuité du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens du livre, on cite un exemple assez précieux, assez important, assez magnifique. Zayd ibn Sana'a, qui était un savant juif de Médine, vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam exiger sa créance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des comportements commerciaux avec les juifs. Il prenait des crédits des juifs, il achetait des juifs. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Hein, dans un environnement aussi mélangé, il est évident que on doit faire preuve de bonne intégration. Donc ce savant juif de Médine vint au prophète Sallama exiger sa créance, réclamer sa créance. Il tira l'habit de l'épaule du prophète Sallama, le prit au col brutalement et lui dit avec dureté: vous les Beni Abdul Muttalib, en parlant du prophète Sallama, vous altermoyez vos dettes, tu m'attelons. Et Omar, qui était à côté du prophète Sallama, qui a vu le geste cruel et violent de cette personne qui venait réclamer sa dette, eh bien il lui dit, il le réprimanda et durcit le ton. Le prophète Sallama sourit et lui dit: moi et lui, nous avions plus besoin d'autre chose de ta part, ô Omar, que tu me recommandes de bien régler ma dette et que tu lui recommandes de réclamer son dû de bonne façon. Puis il ajouta: il reste en fait au terme de la dette 3 jours. Donc il reste 3 jours encore. Tu es venu un peu plus tôt. Et il ordonna à Omar de lui payer sa dette et de lui donner en plus 20 mesures, ça, pour l'avoir effrayé. Donc voyez-vous le prophète Sallama, comment il s'est comporté avec ce juif qui est venu réclamer sa dette avant même avant l'échéance, et l'a réclamé de façon très dure, de façon violente, de façon impolie, on va dire. Et Omar, qui a voulu réagir, et le prophète Sallama qui lui dit non. Et il lui a même demandé de dédommager cette personne-là parce qu'il a durci le ton. Imaginez le prophète Sallama qui avait la puissance, qui était bien entouré, qui pouvait évidemment d'un seul ordre envoyer cette personne balader, l'envoyer promener. Non, il l'a même dédommagé parce que Omar était un peu dur avec lui dans le ton. Il a durci le ton et le prophète l'a dédommagé. Vous voyez, enfin, on peut pas trouver plus que ça comme douceur et comme pardon. Ce fut la cause de l'entrée à l'islam de cet homme, justement, qui disait: il ne manquait aucun signe parmi les signes de la prophétie de Mohammed que je ne connus, sauf deux. C'est-à-dire, il avait consulté la Torah, il a vu que il cherchait les signes de la prophétie, et il avait trouvé que parmi les signes de la prophétie, eh bien, il y avait la magnanimité. Il voulait tester la magnanimité, le rifq al-hilm du prophète sallallahu. Il a trouvé que c'était vrai. Sauf deux, donc il dit, sauf deux, sa magnanimité prime sur sa colère et le surplus d'emportement aveugle ne fait qu'ajouter à sa magnanimité. Donc il a testé ces deux qualités-là et il a trouvé que c'était vrai. Ainsi, je l'ai prouvé avec cette histoire de dette et je le trouvais alors tel que décrit dans les anciens livres. Quant à ma dette, donnez-la aux pauvres parmi les musulmans. Donc rapporté par Ibn Hibban 1 sur 521. Donc on voit que ce savant juif de Médine était venu plutôt éprouver ces deux qualités dans le prophète Slama, et il a effectivement vu que c'était vrai. Il a vu que c'était comme ce qui a été décrit dans les anciens livres. Toujours dans la continuité de la relation du prophète Slama avec les gens du livre, le prophète Slama avait un voisin juif qui déversait chaque matin des ordures devant la maison du prophète Slama. Est-ce que c'est par haine? Est-ce que c'est par dureté de comportement? Est-ce que c'est parce que lui, il ne considérait pas comme prophète et qu'il voulait le nuire absolument? Donc en sortant, le prophète Sallama enlevait ses ordures sans faire le moindre reproche à son voisin. Un jour, en sortant de chez lui, le prophète Sallama ne trouva pas d'ordures. Il demanda des nouvelles de son voisin. On lui dit qu'il était malade, alité. Le prophète Sallama alla lui rendre visite. En le voyant, ce juif eut peur. Tout d'abord, parce qu'il croyait que le prophète Sallama venait lui faire du mal ou se venger, ce qui était humain, hein, ce qui était, on va dire, attendu par n'importe quel être humain normalement constitué. Mais notre bien-aimé prophète Sallama, à l'encontre de ce que cette personne attendait, eh bien le prophète Sallama l'apaisa et lui expliqua qu'il venait juste le soutenir dans sa maladie, parce qu'effectivement ça faisait partie du comportement que le prophète Sallama nous a enseigné, c'est de visiter les malades, quel que soit la nationalité du malade, ou la religion du malade, ou la race du malade. Donc il venait juste le soutenir dans sa maladie, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonnait de faire avec les malades. Et lui apporta du réconfort, et touché par ce geste, donc ce juif se convertit à l'islam parce qu'il a vu que c'était pas simplement des paroles, que c'était surtout un comportement. On rapporte aussi au sujet d'Abdullah ibn Amr, que Dieu l'agrée, donc là on voit la projection de l'éducation du prophète Slama et l'impact de l'éducation du prophète Slama sur ses compagnons, sur ses proches compagnons et ses compagnons et leurs compagnons. Donc, Abdullah ibn Amr, que Dieu l'agrée, lorsqu'il égorgeait un animal pour le faire cuire chez lui, Il s'assurait à ce qu'une partie de celui-ci soit offerte à son voisin qui était juif, rappelant les propos du prophète Slama, Jibrail, Gabriel m'a tellement interpellé au sujet du voisin que j'ai craint que celui-ci soit désigné comme héritier. Voyez-vous là, le comportement avec le voisin, quel que soit le voisin, qu'il soit juif, chrétien, athée, polythéiste, on s'en fout, c'est notre voisin et on a un devoir de le respecter, de prendre soin de lui. Et dans la continuité de ce noble comportement, de ce comportement sublime avec les gens du livre que le prophète Slama avait et que les compagnons ont hérité de lui, Omar, le deuxième calife, radiallahu anhu, à Jérusalem, est un merveilleux exemple. C'est un merveilleux exemple. Donc le calife qui a fait confier les affaires de l'État à Ali se rendit à Jérusalem, à Al-Quds. Il avait un serviteur pour se l'escorte et il n'y avait qu'un chameau qu'ils chevauchaient chacun à leur tour. Le jour de l'arrivée à Jérusalem, c'était le jour du serviteur, c'était le tour du serviteur, au tour du serviteur de monter sur la bête, parce qu'il n'avait qu'une seule bête et il s'altérait hein, pour monter sur cette bête. Chaque fois, quelqu'un était fatigué. Donc, vous voyez, Omar al-Khattab, il était juste. Il traitait tout le monde à égalité, qu'il soit serviteur, domestique, pauvre, riche, noble, pas noble. Le seul critère pour lui, c'est la piété. Et les gens, pour lui, étaient égaux. Et donc, ce serviteur a dit au prophète, a dit à Omar, commandeur des croyants, je te cède la monture, ce serait d'un piètre effet aux yeux des gens si je montais la bête tandis que toi tu la guides. Non, répondit Omar, je ne vais pas me montrer injuste. L'honneur de l'islam est amplement suffisant pour nous tous. Et là, donc, Abu Ubaïd, Khalid, Yazid et les autres officiers de l'armée s'étaient avancés pour recevoir le calife. Tous portaient des tuniques de soie, ce qui rendit Omar furieux. Il fit de vifs reproches à ses généraux en disant « Avez-vous donc tant changé en l'espace de 2 ans? Qu'est-ce que cet accoutrement? Même si vous aviez fait cela 200 ans avant, je vous aurais démis. » Les officiers répondirent « Nous sommes dans un pays où la qualité du vêtement atteste le rang de l'homme. Si nous portons des vêtements ordinaires, nous inspirerons peu de respect aux gens. Cependant, nous portons nos armes sous nos robes de soie. » Cette réponse apaisa la colère du calife. Ensuite, Omar signa le traité de paix. Il se présenta comme suit et là, faites très attention à ce qui va être dit parce que c'est important, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'on assiste à un traité de la sorte dans cette ville triplement sainte. Dans cette ville où le sang continue à être versé. On n'arrive pas encore à la paix aujourd'hui. Il dit, c'est Omar qui parle et demande qu'on écrive. C'est une charte importante, c'est un code de conduite important, pardon. Du serviteur de Dieu et commandeur des croyants Omar. Les habitants de Jérusalem sont assurés de la sécurité de leur vie et de leurs biens. Leur église et croix seront préservées. Leurs lieux de culte resteront intacts. Ils ne pourront être confisqués ou détruits. Ce traité s'applique à tous les habitants de la cité. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion. Les gens seront tout à fait libres de suivre leur religion. Ils ne devront subir aucune gêne ou trouble. Voilà donc un extrait de cette charte qui est à mon avis extraordinairement importante. C'est quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Il y a 14 siècles, on ne pouvait pas imaginer un comportement pareil de la part d'une puissance de cette époque. On a vu l'Empire romain, l'Empire perse. Jamais personne n'a pu faire ce geste-là, émanant d'un puissant comme Omar et comme la Khilafa islamique à cette époque-là, qui avait réussi à dominer le monde. Pas avec l'épée, mais avec le cœur, avec le bon comportement, avec la lumière de la civilisation. Une civilisation qui a englobé tous les niveaux de la vie, socio-culturel, spirituel, éthique. Alors les portes de la ville étaient ouvertes. Omar se dirigea directement vers le temple de David. Masjid al-Aqsa, il fit sa prière sous l'arche de David. Il visita ensuite la plus grande église de la ville et s'y trouvait justement lorsque vint l'heure de la prière de l'après-midi. Tu peux faire ta prière dans l'église, dit l'évêque. Non, dit Omar. Si je fais cela, il pourrait arriver un jour que les musulmans prennent cette excuse pour s'emparer de votre église. Ainsi, il préféra faire sa prière sur les marches de l'église. De plus, il donna un écrit à l'évêque qui stipulait que les marches ne devaient pas être utilisées pour la prière en commun, ni pour l'appel à la prière. Et aujourd'hui même, la descendance de cet évêque est celle qui détient les clés de cette église. Vous pouvez le vérifier par vous-même, depuis Sidna Omar ibn Khattab, radiallahu. La mosquée de Omar ibn Khattab. Omar voulut bâtir une mosquée à Jérusalem. Il demanda à l'évêque quel site conviendrait le mieux à son projet. L'évêque lui suggéra la Sakhra, à savoir le rocher où Allah s'adressa au prophète Yaqub. Les chrétiens y avaient amoncelé des immondices pour irriter les juifs. Omar lui-même prit part au nettoyage. Jérusalem, cité du Christ, était ainsi témoin du sens de l'équité qui caractérise l'islam et qui est une conséquence du bon dialogue, du respect et de la reconnaissance de l'autre. C'est très important, je souligne la reconnaissance, le respect de l'autre. Parce qu'il n'y a aucun dialogue sans reconnaissance et sans respect de l'autre. Lorsque toute trace d'impureté fut enlevée, on bâtit une mosquée à cet endroit qui existe encore de nos jours et est connue sous le nom de mosquée de Omar, Masjid de Omar. Maintenant, voyons, là on a vu un peu en résumé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. On peut rester là pendant des heures et des heures à parler du bon comportement qu'a eu le prophète Sallallahu et ses compagnons avec les gens du livre, mais on va s'arrêter là parce que c'est, enfin, on a donné quelques idées importantes et j'espère que ça a été bien compris, bien imprimé. Maintenant, on va donner quelques exemples de la relation avec les athées et les païens, la relation du prophète Sallallahu et ses compagnons avec les athées et les païens. La mère de Asma, la fille d'Abou Bakr, est venue à Médine rendre visite à sa fille. Elle lui a apporté des cadeaux. Asma n'a pas voulu l'introduire chez elle, ni accepter ses cadeaux, car sa mère était encore païenne. C'est alors que ce verset fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voyez-vous, la relation avec les parents ne doit pas changer à cause de la religion. Le bon comportement avec les parents s'impose, malgré la différence religieuse. Regardez l'exemple d'Abraham avec son père Ahazar. Il lui a donné évidemment le bon conseil comme il pouvait, mais il a gardé le bon comportement avec son père. Il s'est adressé à lui poliment, gentiment, évidemment, sans lui obéir dans ce qui est désobéissance à Dieu, car on ne peut obéir à une créature dans la désobéissance du Créateur. C'est ainsi que fut révélé le verset au prophète Laslama, s'adressant à Asma, bintu Abi Bakr. C'est le verset 8 de la sourate 16 du Coran, de la sourate 60, pardon, du Coran. Dieu ne vous empêche pas à l'égard de ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion, et ne vous ont pas chassé de vos demeures, de faire part de bonté et de justice à leur égard, c'est-à-dire de prendre soin d'eux et bien se comporter avec eux. Donc Asma, suite à ce verset, accepta alors de recevoir sa maman et prit soin d'elle. Le verset montre bien que le dialogue passe au-delà de la tolérance, qui est un terme étranger à l'islam, car tolérer, c'est accepter à contre-cœur. Il prend plutôt l'amour du prochain, aimer le bien pour les autres et la bonté, qui sont les moteurs de l'entre-connaissance et du bon échange. Et donc, là, je cite un hadith du prophète Islam, très très beau. Nul n'est véritable croyant s'il n'aime pas pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Et aussi, la imana liman la mahabbata lah. Nul ne peut prétendre à la foi sans avoir l'amour. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul ne peut prétendre la foi sans avoir l'amour. Et un autre hadith qui dit: La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'êtes pas croyant. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne aimez pas les uns les autres. C'est très important. On peut citer aussi le pacte de Hudaybiyah dans le même sens des relations des musulmans avec les païens. Le pacte de Hudaybiyah et la délégation du Tarkif et d'autres exemples de la Sira. Donc, Pour finir, je dirais que souvent le concept de tolérance est utilisé dans le cadre du dialogue interreligieux. On ne trouve nulle part dans le Coran ou la Sunna ce concept. Tolérer peut conduire à accepter quelqu'un à contre-cœur ou avec des réserves et garder sa distance par rapport à lui. Certains historiens prétendent que ce mot est né dans des conflits entre protestants et catholiques. Or, en islam, la tolérance est remplacée par l'amour du prochain, une reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire qu'elle exige un dialogue permanent et un partage. Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez le meilleur d'entre vous et le plus pieux. Il s'agit là du verset 13 de la sourate 49. Donc il n'a pas dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est arabe, ou c'est celui qui est français, ou c'est celui qui est machin. Non, il a dit le meilleur d'entre vous est le plus pieux. Il n'a pas dit celui qui est noir ou celui qui est blanc. Et d'ailleurs, cette notion de race n'existera plus avec l'avènement de l'islam. Cette notion de discrimination raciale ou ethnique s'arrêtera avec l'avènement de l'islam. C'est une révolution dans la société de l'époque, il y a 14 siècles. Le prophète, quand tu leur as dit, il n'y a pas de différence entre arabe et non-arabe, entre noir et blanc, si ce n'est par la piété. Et là, évidemment, ça a hérité beaucoup de tyrans de l'époque. Et ça a évidemment montré que l'islam est vraiment une religion de justice, une religion d'égalité et d'équité et d'éthique englobant. Le croyant est amené, grâce à son éducation spirituelle, à aimer l'autre, car son cœur est rempli d'amour de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu n'a assigné de cœur au ventre d'aucun homme, comme dit dans le Coran, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. D'où il ne peut qu'aimer les créatures sans distinction, une miséricorde envers l'univers, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était envoyé comme miséricorde aux univers. Et communiquer avec elle sans préjugés. Le croyant vrai comprend par le biais de la pratique des prescriptions divines et de l'éducation spirituelle mohammedienne que le seul juge est Dieu. Il comprend aussi que les croyances peuvent être différentes, divergentes. Il comprend et communique avec l'autre en aimant pour lui le bien et en le respectant, car l'être humain, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, est le souffle de Dieu. Dieu a créé l'humain à partir d'argile et lui a insufflé de son esprit, comme on trouve dans le verset 9 de la sourate 32, il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Voyez-vous dans le Coran qu'Allah a ordonné à Moïse et son frère de bien parler et d'être doux dans la communication, dawa, vis-à-vis d'un des plus grands tyrans que le monde n'a jamais connu, le pharaon. Donc voyez-vous, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran l'exemple du pharaon, qui était un tyran, qui a appelé à ce qu'on l'adore lui, en dehors de Dieu. En arabe, beaucoup al-a'la. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il lui a dit: allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment, avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent: oh notre Seigneur, nous craignons qu'il nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Et il dit: ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez donc chez lui, puis dites-lui: nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne l'achetis plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Sourate Taha, versets 43, 44 jusqu'à 47. Donc voyez-vous, Allah, comment il a ordonné à Moïse de parler au pharaon. Il lui a dit: parlez-lui gentiment. Faqoula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. فقول له قولا لينا. هذا يعني فيه حكمة عبرة لمن لا يعتبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. On conclut que le musulman doit respecter tout le monde et user les bonnes convenances avec toute créature de Dieu. L'islam nous ordonne le respect de toutes les créatures, humaines, animales et végétales. Et là, on peut discuter sur plusieurs séances de l'écologie et l'islam, le respect dû aux créatures de Dieu, au monde animal, au monde végétal, comme le prophète Slama nous a parlé de cette chatte qui a été laissée à l'abandon et qui a causé à sa propriétaire l'enfer parce qu'elle l'a pas, parce qu'elle l'a maltraitée. Et aussi de ces oisillons qui ont été privés de leur mère. Le prophète Slama a ordonné qu'on leur donne à leur mère. Ou aussi l'ordonnance du prophète Slama qui ordonnait de ne pas couper d'arbres fruitiers, de planter, de construire. Pourquoi respecter tout le monde? Car entre autres, on ne pourra échanger convenablement avec quelqu'un que si l'on le respecte. Sans le respect, aucune bonne communication n'est possible. Et le dialogue cédera à la place à la haine, aux préjugés, à la violence, à la discorde et au désordre sur terre. Donc l'humain, quel que soit l'humain, est la lumière de Dieu, le souffle de Dieu, comme on l'a vu, nafra, nafra fihi min ruhi. C'est cela que les anges, c'est à cela que les anges se sont prosternés. Et c'est cela que Satan n'a pas vu et n'a pas voulu se prosterner. Il n'a vu en lui-même que l'argile et fut voilé de ce qui était derrière, au-delà de l'argile. Eh bien, je conclue avec un conseil et avec quelque chose qui me fait très mal à dire à chaque fois. C'est où en est-on aujourd'hui? La communauté musulmane a besoin de ces rappels. A besoin de savoir qu'on est très loin du comportement prophétique, du comportement des compagnons qui ont été les nobles messagers de la piété, du bon comportement, du bel agir. Aujourd'hui, les musulmans donnent une très mauvaise image de l'islam, donnent une image obscure de leur religion, une image malpropre, alors que c'est tout le contraire. Et beaucoup de médias relayent malheureusement ce phénomène et l'accentuent. Parce que ça arrange les affaires de beaucoup d'ennemis de l'islam. L'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est ce qu'on vient de citer, c'est le bon comportement, c'est le bel agir. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants pour quel est le comportement du prophète l'islam. Le bon parler. Comme on l'a dit dans le hadith, Allah déteste l'homme grossier qui prononce les paroles obscènes. Regardez dans les banlieues maintenant, quelles paroles on est en train d'entendre. De la part de musulmans et de fils de musulmans. Où en est-on? Les musulmans qui ont jadis régné sur la terre avec justice, avec bon comportement, avec cette civilisation de lumière qui a duré presque 8 siècles, eh bien aujourd'hui, ils sont réduits à des. Je ne peux même pas dire. C'est indigne. C'est indigne de notre belle religion, de notre sublime religion. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. On doit être digne de ce que Allah a dit de nous dans le Coran. La meilleure communauté, la communauté médiane, la communauté du juste milieu, la communauté du respect, de l'amour, de la paix. Et justement, on doit revenir vers les valeurs essentielles de l'islam. On doit éduquer nos enfants sur les valeurs essentielles de l'islam qui sont d'abord et avant tout le bon comportement avec autrui pour qu'on soit les bons messagers de l'islam. Les bons messagers de l'islam. Les vrais messagers, le messager du vrai islam. Les bons ambassadeurs de l'islam. Les bons ambassadeurs de l'islam. Regardez en Indonésie. L'Indonésie, c'est le premier pays musulman en nombre de musulmans. Comment l'islam est parvenu à cette ère? Est-ce que c'est avec l'épée? Est-ce que c'est avec la violence? Non. Ce sont des commerçants musulmans qui sont partis là-bas il y a plusieurs siècles. Et les gens ont été touchés par leur bon comportement. Ils ont embrassé l'islam grâce à ce bon comportement. Le bon comportement dépasse, son effet, son impact dépasse. Le temps dépasse l'espace. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب اللهم حسن خلقنا اللهم أعطي لشبابنا وشيبنا الخلق الحسن واجعلنا يا ربي أهلا أهلا لما يريده الله تبارك وتعالى منا ورسوله منا واجعل يا ربي رضاك عنا وردنا إلى ديننا ردا جميلا وردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم ارزقنا الفهم اللهم ارزقنا الفهم اللهم ارزقنا الفهم السليم لهذا الدين العظيم الدين الحنيف الدين السمح. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول كنا قوما أعز كنا قوما أذلة كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا يوما العزة في غير الإسلام أذلنا الله. عمر بن الخطاب il a résumé un peu ce que je viens de dire, il a dit, nous étions des peuples, des tribus humiliés, divisés. On n'était rien. Et Allah nous a donné la puissance, l'union dans l'islam. Si un jour on cherche la puissance en dehors de l'islam, Dieu nous humiliera. Donc revenons à notre religion, revenons aux valeurs essentielles, revenons au bon comportement, au bel agir. C'est cela qui est important. Regardez nos frères juifs par exemple. Ils ont les meilleurs postes, ils ont les meilleures écoles, ils ont réussi à avoir la reconnaissance de l'État. Par quoi? Par le bon travail, par la rigueur, par l'entraide, par la solidarité. Et nous, notre religion nous impose la solidarité, nous impose l'union, nous impose le bon comportement, nous impose d'être utile, d'avoir les meilleurs postes, d'avoir la meilleure représentation de notre religion. Et on ne le fait pas. On ne le fait pas. On est en train de chercher les défauts des autres. Au lieu de se concentrer sur nos propres défauts, on est en train de critiquer au lieu de construire ensemble. Pour l'avenir des générations futures, pour l'avenir de l'islam surtout. Donc voilà ce qui nous rend malades aujourd'hui. C'est la recherche des défauts des autres. C'est la désunion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالجسد والحمى. L'exemple des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'exemple des musulmans, c'est comme l'exemple du seul corps. Si un membre est malade, l'exemple des musulmans dans leur miséricorde, dans leur affection, dans leur entraide, dans l'amour qui se porte entre eux, c'est l'exemple d'un seul corps. Si un membre est malade, tout le corps s'enfièvre et veille en solidarité avec ce membre. Il dit que les musulmans sont comme l'édifice scellé, Bunyan al-Marsous, Yadul al-Aman Siwa, une seule main. Où sommes-nous de cette image aujourd'hui? À vous de méditer, à vous de répondre, à bon entendre. Salam alaikum.